Bonjour à tous et bienvenue dans l'EM, l'émission sur Radio Évasion. Une émission pleine de reportages puisque nous sommes avec l'équipe du DITEP Jean-Louis Etienne à Brest. On vous emmène pour un petit voyage itinérant dans le Finistère.
L'EM, l'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Et aujourd'hui dans l'EM, on vous propose un petit voyage, celui des élèves du DITEP Jean-Louis Etienne à Brest, une équipe que vous avez peut-être déjà entendue dans l'EM il y a quelques temps. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors autour de la table, on a Antoine, on a Jonathan et Kevin. Alors où est-ce que vous nous emmenez ?
Bonjour à tous, nous allons donc vous emmener dans plusieurs endroits sur le parc naturel régional d'Armorique. Nous sommes allés rencontrer plusieurs habitants qui font vivre ce territoire. On va parler d'environnement, de musique et on découvrira des métiers. Une potière et une paysagiste. Des métiers qui sortent de l'ordinaire dans des lieux atypiques. Et nous avons rencontré uniquement des femmes.
Et puis on le rappelle, depuis le début de l'année, vous faites plein de reportages sur le territoire du parc naturel régional d'Armorique. Vous êtes maintenant des pros de l'interview et du direct aussi. Alors on va tout de suite faire une première étape avec Kevin. Où est-ce que tu nous emmènes ?
On va sur l'île de Ouessant. Après 3 heures de bateau, nous sommes partis de Brest à 8h30 et après un long voyage, nous sommes arrivés à 11h30. Un voyage sans encombre, sans vagues ni vent. Nous sommes allés voir Marie
Guégan-Gira,
qui nous a parlé de son métier de paysagiste sur l'île de Ouessant. Retrouvons Marie pour son interview.
Bonjour, nous sommes avec Marie dans l'association Troen.
Nous allons donc présenter quelques questions à Marie pour savoir quelle est la vie sur Ouessant, comment vit-on à Ouessant, et aussi quelques questions sur le métier que vous faites. Vas-y Kevin, je te laisse commencer.
Pourquoi avoir choisi votre métier ?
J'aimais beaucoup la nature, beaucoup être dehors, donc je suis paysagiste. Donc paysagiste, en fait, on dessine des espaces publics. En gros, il y a les architectes qui font les bâtiments et nous, on fait ce qu'il y a autour. J'aimais bien dessiner aussi, voilà, c'est un mix.
Est-ce que c'est dur de faire fonctionner son entreprise quand on habite Ouessant ?
C'est vrai que c'est assez particulier. Moi, j'ai mon activité, je l'ai commencée à Brest. Et on est plusieurs à travailler à Brest. Et un jour, j'ai décidé de venir à Ouessant. Donc, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit que j'allais changer de métier. Et finalement, avec mes collègues, on a un peu réfléchi. On a regardé la manière dont ça pouvait fonctionner. Et on s'est dit qu'on pouvait un peu réorganiser le travail et faire en sorte que bah, moi, je traite tout ce qui se fait, on va dire, derrière un ordinateur et que soit plus sur le terrain. Donc, ça, c'était avant le Covid. Donc on tâtonnait un petit peu et puis après finalement il y a eu le Covid, tout le monde s'est un peu mis au télétravail et tout est devenu beaucoup plus facile. Malgré tout, je continue à retourner parfois deux fois par semaine sur le continent bah, pour gérer les rencontres, les chantiers, les rendez-vous, etc. Mais c'est vrai que par exemple avec le Covid et avec les visioconférences, etc., c'est devenu beaucoup plus facile je pense de travailler à Ouessant.
Qu'est-ce que ça veut dire votre métier sur Ouessant ?
Alors, mon métier sur Ouessant, quand je suis arrivée, ça voulait surtout dire que j'avais des projets sur le continent et que j'étais derrière mon ordinateur à Ouessant. Mais aujourd'hui, ça a un petit peu changé, parce que depuis que j'habite là, j'ai eu des projets sur Ouessant. Du coup, je travaille sur deux projets. Je rénove les espaces extérieurs de la maison de retraite et je participe à un projet sur tout le musée du CREACH, musée des Phares et Balises. Je ne sais pas si vous avez pu y passer. Donc du coup, faire mon métier à Ouessant, bah, concrètement, ça veut dire créer des espaces publics à Ouessant. Et le reste du temps, ça veut dire créer des espaces publics sur le continent depuis Ouessant.
Est-ce que les plantes sur Ouessant sont différentes sur l'île ?
Alors, elles ne sont pas forcément différentes de la Bretagne. Par contre, c'est vrai que sur les projets qu'on a ici, on va faire vraiment très attention à ne pas amener des plantes de l'extérieur qui risqueraient bah, d'être invasives ou d'être peu adaptées. Donc on essaye au maximum, en gros, de regarder ce qui se passe déjà et de valoriser bah, la végétation qu'on trouve déjà sur l'île. Parce que ça pourrait finalement être un peu catastrophique d'amener une plante qui devienne invasive sur l'île.
Est-ce qu'il y a de l'agriculture sur l'île ?
Alors, il y a eu beaucoup d'agriculture. Une question intéressante et d'actualité. Il y a eu beaucoup d'agriculture parce que, à peu près jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, bah, les gens ils cultivaient. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui cultivaient leurs champs, leurs potagers, etc. Ensuite, et toujours aujourd'hui, hein, évidemment, il y a des gens qui cultivent leur potager, on va dire, à titre personnel ou pour eux. Mais depuis quelques années, il y a trois agriculteurs qui sont arrivés. Il y a donc une personne qui fait du maraîchage. Je ne sais pas si vous êtes passé devant, il y a des grandes serres à côté du bourg, donc qui cultivent là du. Bah voilà, il y a différents légumes, fruits. Il y a des fraises depuis peu. Il y a également deux éleveurs. Il y a donc Charlène qui élève des brebis et qui fait du fromage avec. Elle est vers le criage. Et il y a un couple d'agriculteurs qui vient d'arriver du sud de la France avec des vaches, pareil, je ne sais pas si vous avez pu voir les vaches, et qui commencent aussi à faire du beurre, du fromage. Et eux, ils sont là depuis quelques mois seulement. Donc ça, c'est assez récent. Et c'était l'idée que bah, l'agriculture, ça sert à entretenir un peu les différents espaces de l'île. Donc c'est intéressant de réussir, grâce à une activité économique, l'activité agricole, à entretenir des champs, etc. sur l'île.
Est-ce que vous vous êtes intéressé au patrimoine de l'histoire de Ouessant et est-ce qu'il vous intéresse ?
Alors oui, bah déjà, voilà, titre personnel, je trouve ça intéressant de comprendre l'histoire de l'endroit où on vit. Et puis aussi bah, par rapport à mon métier, je vous disais tout à l'heure qu'en ce moment on travaille, c'est un exemple, hein, qu'on travaille sur le phare du Créache. Donc bah, dans le cadre de ce projet professionnel, j'ai eu l'occasion de découvrir l'histoire du phare du Créache, etc. Et donc c'est, enfin ouais, c'est intéressant de pouvoir ouais, comprendre le territoire sur lequel on est.
Êtes-vous heureuse de ce choix de vie ?
Je ne regrette absolument pas. Et en plus, je suis arrivée juste avant les confinements, etc. Et être confinée sur Ouessant, je pense que je me suis dit que j'avais vraiment de la chance.
Eh bien, merci Marie pour nous avoir répondu à ces questions. Je vous en remercie et puis au revoir.
Alors, on le reprécise pour les auditeurs, Marie a initié avec d'autres Ouessantins un projet d'espace de coworking, un lieu de travail partagé où d'autres habitants de l'île peuvent venir travailler. Alors, on reste toujours sur l'île d'Ouessant, nous y étions il y a une quinzaine de jours. On a marché, allez, pour certains, une quinzaine de kilomètres et on a rencontré Ruby Ganchou. Elle est chargée de transition écologique sur les îles de la mer d'Iroise pour l'association des îles du Ponant. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé avec Ruby, Kevin ?
On a parlé du dérèglement climatique et des conséquences. C'était une interview intéressante. Cela m'a plu de parler du climat et du transport. Nous étions à la mairie de Ouessant pour enregistrer cette interview, une véritable passionnée de son travail.
Eh bien, on écoute tout de suite Ruby.
Donc, par rapport à votre métier, en quoi consiste-t-il ?
Alors moi, je suis facilitatrice de transition écologique pour un projet qui s'appelle « Les habitants moteurs de la transition sur les îles de la mer d'Iroise ». Donc c'est Saint, Molène et Ouessant. On peut dire aussi que je suis animatrice ou technicienne. Et en fait, ça consiste à aider les habitants à mettre en place des actions de transition écologique. Donc par exemple, individuellement, s'ils veulent que je les aide à comprendre leur consommation d'énergie ou par rapport à des aides sur la rénovation énergétique ou s'ils veulent savoir si leur toiture a un bon potentiel solaire, donc ils peuvent mettre des panneaux solaires par exemple. Ou collectivement, je peux aider des groupes de citoyens qui voudraient se réunir pour, par exemple, réduire leurs déchets ou créer une association sur ce sujet-là. Donc je suis un peu médiatrice quelque part. Mais aussi je suis technicienne car j'ai des connaissances sur tous les sujets de l'écologie, les déchets, l'énergie ou le changement climatique.
D'accord. Ça veut dire quoi le réchauffement climatique sur Ouessant ?
Alors maintenant on parle plus de dérèglement climatique parce qu'avec les activités humaines, l'air, l'eau, la terre ont été modifiées, polluées. Donc ça se manifeste ici par la pollution de la mer aux microplastiques par exemple. Donc il y a par exemple le CNRS qui vient des fois pour faire des... Il y a aussi l'augmentation du niveau de la mer ou encore on retrouve encore des déchets sur l'île dans des endroits un peu improbables, parce qu'avant, on jetait des déchets n'importe où quand il n'y avait pas de déchetterie, et aussi dans la mer. Donc ça se retrouve dans le sol, dans la mer, voire dans certaines espèces qui quand il fait trop chaud, ne reviennent pas forcément avec les migrations, enfin, surtout les oiseaux. Mm-hmm. Mais certaines espèces qui peuvent disparaître, ou alors l'inverse, il y a des espèces qui sont invasives, certaines espèces de plantes, ou même des rats, par exemple, qui viennent. Donc, il y a des campagnes de dératisation. Donc, voilà, c'est un peu maintenant à nous, aux générations futures, de prendre en main ce dérèglement pour survivre dans de bonnes conditions, grâce à la transition écologique, notamment.
Qu'est-ce que veut dire la transition écologique sur Ouessant ?
Alors, la transition écologique, c'est un terme un peu large pour parler de la mise en place d'actions en lien avec une logique écologique. Donc, il ne s'agit pas de parler que de nature, finalement, et tout ce qui peut éviter de la modifier, rendre les choses plus en lien avec des cycles naturels, en lien avec les écosystèmes. Ça peut être un peu éloigné, par exemple, pour l'énergie. Il n'y a pas vraiment d'énergie verte à 100%, ça pollue de toute manière. L'AIP aide les citoyens qui voudraient faire des travaux de rénovation énergétique à avoir des aides financières, par exemple pour isoler leur maison, remplacer une chaudière ou changer des fenêtres, pour éviter qu'ils surconsomment l'hiver, par exemple. Et puis ça participe aussi au confort à la maison. Parce qu'ici, il y a beaucoup de maisons qui sont très humides ou qui sont mal isolées parce que c'est... comme c'est éloigné du continent, c'est un peu plus difficile de rénover. Sur les déchets, il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent. Une déchetterie depuis quelques années. Ils essayent de trouver des solutions ensemble. Par exemple, ils ont mis en place des composteurs. Donc on peut venir chercher un composteur à la mairie. Et donc ça permet d'éviter d'avoir des poubelles trop importantes. Parce qu'en fait, comme c'est une île, tous les déchets non traités, comme par exemple le composteur, tous les déchets, les biodéchets restent sur l'île dans la terre, quoi. Tout le reste repart sur le continent pour être traité, ils repartent en bateau, donc comme toutes les marchandises. Et voilà, le bateau, ça pollue aussi, parce que c'est du fioul.
Est-ce que le fait que les marchandises soient livrées par bateau peut poser des problèmes ?
Ah bah du coup, faut voilà, bien s'organiser, parce que du coup, la vie est un peu régie par les mouvements d'arrivée et de départ des bateaux. Et c'est vrai que, comme je le disais, ça fonctionne au fioul, les voitures aussi, la centrale, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent au fioul. Et donc oui, c'est une énergie fossile, c'est-à-dire qu'elle ne se renouvelle pas, et donc un jour, on n'en aura plus, quoi. En plus, ça pollue, donc faut penser à faire quelque chose autrement, quoi. Enfin, voilà. Trouver des hydrocarbures comme ça dans l'eau, les plantes, les abeilles, le sol. Donc l'objectif de cette transition écologique, c'est de rendre l'île un peu plus indépendante du pétrole en diminuant ses consommations d'énergie, par exemple, en réfléchissant à une manière de produire une énergie plus propre. Et manger local, je ne sais pas si ça te parle, par exemple, quand on dit manger local.
Mmh.
C'est manger avec des produits qui sont plus produits sur le lieu, donc par exemple sur l'île. Donc maintenant, il y a un maraîcher. Il y a une fermière qui est venue avec ses vaches aussi, et une personne qui est venue avec des brebis pour faire du fromage de brebis, du fromage de vache. Et on essaye de développer, la commune essaie de développer de plus en plus ce genre de choses. Ça évite d'aller chercher les aliments ailleurs. Et pareil pour les déchets, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour éviter aussi d'apporter des déchets plastiques ou de devoir en ramener, quoi. Donc tout dépend du bateau, finalement. C'est pour ça qu'on veut aussi une certaine autonomie énergétique et écologique sur l'île, quoi.
D'accord.
Voilà.
Comment se passent les déplacements sur l'île ?
Alors, il y a beaucoup de voies piétonnes, quand même. Il y a des vélos, donc on voit beaucoup de touristes aussi à vélo. Mais c'est vrai que pour transporter des affaires, il faut quand même des voitures, des coffres. Donc il y a quand même pas mal de voitures, surtout que l'île, elle est quand même assez grande. C'est pas une petite île. Et maintenant, pour éviter ça, parce qu'aussi ça pollue, il y a certains habitants qui essayent de faire de l'autopartage. Est-ce que tu sais ce que c'est l'autopartage ?
Mmh.
C'est l'idée de se regrouper et de mutualiser par une voiture pour plusieurs personnes. Donc c'est s'organiser entre voisins pour voir comment on peut faire autrement, que chacun ait sa voiture, quoi. Après, voilà, faut voir si dans les prochaines années ça va marcher ou pas. On fera revenir pour voir si ça a fonctionné.
Comment se passe la question des déchets sur l'île ?
Comme je le disais, les gens sont plutôt volontaires pour les réduire. Donc il y a des composteurs. Et là, dernièrement, on a fait à la mairie une réunion publique pour parler voilà, des groupements, comment se regrouper pour faire un petit peu mieux. Et il y a des personnes qui ont parlé de boîtes à dons, par exemple, ou de ressourceries. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ?
Non.
Alors, c'est une boîte dans laquelle on met des objets dont on ne se sert plus. C'est un peu comme un grenier populaire, quoi, donc on n'en veut plus. C'est comme des boîtes à livres, par exemple, on va mettre des livres qu'on veut donner aux autres. Et comme ça, ça permet de ne pas jeter dans la déchetterie des choses qui pourraient resservir à d'autres.
Un peu comme un vide-grenier, quoi.
C'est ça. C'est un peu comme un vide-grenier. Et il y a d'ailleurs maintenant une boutique zéro déchet au centre du bourg qui semble bien fonctionner. Bon, tout ça, c'est des logiques. Les gens commencent à y réfléchir, à essayer de faire un peu mieux.
Eh bien, merci pour cette interview, Ruby. Laura, merci.
Merci à vous.
Voilà, et on a appris plein de choses donc sur l'île d'Ouessant et notamment l'électricité qui provenait d'une centrale au fioul installée sur l'île. Alors on continue notre série de reportages, on reprend le bateau et puis un petit peu la voiture aussi pour aller du côté de Saint-Rivoil. Jonathan, on part à la découverte de qui ?
Alors, nous sommes partis voir une potière, Evelyne Talbourdet. Elle nous a présenté son métier. Elle nous a notamment parlé de son métier d'artisan et comment elle s'organise. Le métier de potaire est un métier rare et on était ravis de découvrir sa passion pour son travail. Découvrons ensemble Evelyne, potière à Saint-Rivoil.
Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une interview avec Evelyne Talbourdet chez une potière à la poterie du Tuchen Cador sur Saint-Rivoil.
Bonjour, moi c'est Mathis, intervieweur.
Moi c'est Kevin, intervieweur.
Et Jonathan, intervieweur.
Comment êtes-vous devenu potière ? Avez-vous suivi des études spécifiques ou êtes-vous autodidacte ?
Eh bien, c'est un petit peu le hasard qui m'a amené à la poterie. C'est en entrant un jour dans un atelier de poterie à Cizun, chez Michel Legentil, que ça m'a donné envie de travailler la terre, parce qu'il y avait une ambiance dans l'atelier, parce qu'il travaillait et le tournage, et le modelage, la sculpture, il y avait aussi des peintures, il y avait de la chouette musique, et il y avait petit vent de liberté dans tout ça, voilà, donc ça m'a donné envie d'aller à la rencontre de la terre, en fait, de travailler la terre. Et par rapport aux études, eh bien, je suis allée me former à Agir Céramique, qui est une petite école privée dans le Larzac, c'est le département du Gard. C'était une formation d'un an qui se terminait par un CAP de tournage que j'ai obtenu, voilà, ça fait 20 ans.
Ce métier n'est pas commun. Pourquoi l'avez-vous choisi ?
C'était un peu une révélation. Donc, cet ami qui m'a emmenée chez ce potier m'a en fait fait découvrir un univers. Donc, je connaissais déjà un petit peu des potiers en Bretagne, mais là, chez ce potier-là, eh bien, il y a eu quelque chose qui est arrivé. C'est un peu comme tomber du ciel, vous savez. Des fois, ça arrive. Vous savez, les illuminations comme ça. Et en tout cas, donc je me suis dit, j'adorerais vivre ce métier comme lui, il le vit, en fait.
Pourquoi votre atelier est-il installé à Saint-Rivoil ?
Eh bien, parce que c'est là que je souhaitais vivre. Donc, toujours cette amie qui m'a emmenée chez ce potier m'a aussi fait découvrir cette commune, Joël. Et donc, voilà, j'avais très envie de venir m'installer dans le Finistère, dans les Monts d'Arrée. Et puis, il y avait en plus une école où je pouvais mettre ma fille, une école bilingue publique. Donc, c'était vraiment, toutes les conditions étaient réunies. Et puis, comme c'est un métier où on peut travailler chez soi, monter son atelier, on n'a pas besoin d'être dans un bassin d'emploi, voilà, ou dans une grande ville, eh bien, je me suis dit que c'était un lieu propice pour s'installer, et d'autant plus qu'ici, il y a la nature environnante qui permet de s'inspirer et puis d'être tranquille pour travailler.
De quel matériel avez-vous besoin et de quels matériaux ?
Alors, pour le matériel, c'est un tour et puis un four et du petit outillage. Donc le plus gros investissement, c'est le four, hein, qui doit pouvoir emmener les pièces jusqu'à 1300 degrés. Donc c'est du matériel spécifique. J'ai un four à gaz, donc il y a également une cuve à gaz dans le jardin pour avoir l'énergie pour cuire les pots. Quant aux matériaux, eh bien, j'utilise une terre, surtout du grès de Bourgogne, et puis également de la porcelaine, qui est un assemblage de matériaux qui proviennent de Limoges. Voilà, donc en gros, c'est la porcelaine de Limoges et le grès gris de Bourgogne. Et puis j'utilise quelques autres terres qui peuvent venir de Dordogne ou un grès blanc qui est aussi le fruit d'un assemblage. Voilà, donc ils nous proposent des choses intéressantes là chez nos fournisseurs pour avoir des terres qui sont déjà toutes prêtes, bien plastiques, pour qu'on puisse bien les façonner.
Est-ce que la poterie est un art ?
Alors, eh bien, on va dire que, moi je dirais, c'est, je suis artisane plutôt qu'artiste, mais on est dans une société où on différencie l'art de l'artisanat. Ça, c'est la société occidentale là, qui classifie, qui divise, on va dire. Alors que moi, je pense que tout artisanat peut être pensé être un art. Après, on va essayer de définir des catégories. Comme on parle de l'artisanat d'art, qui est un terme un petit peu particulier. Quand est-ce que l'artisanat devient de l'art ? Où sont les ponts ? Alors après, on va pas rentrer dans un débat philosophique ou technique. Moi, je me pense plus artisane, mais je trouve qu'il y a vraiment tout un temps de recherche, de travail aussi, parfois de mettre du sens dans ce qu'on fait, mais dans toute ma vie, je ne suis pas en train de mettre du sens que quand je fais un bol. Donc c'est peut-être aussi un art de vivre que d'être potière aujourd'hui.
Que ressentez-vous lorsque vous vous estimez que votre pièce est réussie ? Et c'est quoi une pièce réussie ?
Alors, ce que je ressens, c'est de la joie quand je vois une pièce, quand j'ouvre le four, puisque c'est toujours la surprise. Donc c'est de la joie, une grande satisfaction, parce que c'est pas systématique hein, de se dire « Ah là, il y a quelque chose qui sort, qui est particulier ». Donc, et puis, ce que je ressens également, c'est l'envie de poursuivre, de continuer à chercher, parce que dans chaque four, à chaque cuisson, il y a toujours le fruit d'une recherche. Il y a toujours un nouvel émail, une superposition d'émail, ou une nouvelle forme avec un nouvel assemblage d'émail. Donc, il y a toujours un petit peu, on va dire, une recherche. Donc, c'est un chemin qui se fait pas à pas. Donc, voilà, c'est l'envie de poursuivre sur ce chemin-là.
Qu'est-ce qui vous différencie des autres potiers ? Avez-vous une petite touche personnelle ?
Eh bien, je pourrais pas dire ce qui me différencie. On a tous des fabrications différentes. Moi, ce que j'aime faire, et ce qu'aiment pas mal de collègues aussi, c'est avoir des pièces pas tout à fait symétriques, des choses un petit peu déformées. Vous savez, comme chaque individu est profondément différent, et en même temps, on a tous plein de choses en commun, hein, le nez au milieu du visage, ou plein d'autres choses aussi, au niveau du caractère. Eh bien, les peaux, c'est pareil. Ce que j'aime, c'est quand justement, il y en a un qui sort du lot parce qu'il s'est un petit peu affaissé à la cuisson ou au tournage, ou parce qu'il y a quelque chose qui s'est révélé qu'il n'y a pas sur les autres. Voilà, on va dire peut-être plus un accident de parcours que quelque chose qui serait de l'ordre de la symétrie. Moi, je ne cherche pas vraiment quelque chose de parfait. J'apprécie beaucoup quand, justement, il y a une surprise de l'ordre du... Voilà, d'une petite surprise, une vrille, un petit grain de beauté sur une pièce ou des choses comme ça. Voilà.
Bon, eh bien, on vous remercie pour cette interview.
Merci beaucoup. C'était un plaisir.
Merci à vous. Plaisir pour nous.
Et on n'oublie pas Mathis aussi, qui était là ce jour-là pour l'interview. Et puis une petite pensée aussi pour Mathéo, qui a participé au stage radio. Comme ça, on a cité toute l'équipe au complet. Alors, notre road trip touche presque à sa fin. Mais avant ça, on est allé écouter de la musique et nous allons découvrir une artiste. Alors, on est parti loin dans les terres du Finistère pour découvrir une artiste aux sonorités celtiques avec aussi un petit accent, n'est-ce pas, Kevin ?
Nous allons à présent découvrir la chanteuse Yvonne Bouvel. Elle est installée sur la commune de Crignac. C'est une chanteuse qui souhaite faire ce métier depuis toute petite. Elle a sorti de nombreux albums.
Elle a sorti de nombreux albums, effectivement. Elle joue aussi de plein d'instruments. Elle joue quoi, notamment ?
Elle joue plusieurs instruments, notamment de la harpe. On écoute l'interview de Yvonne Bouvel.
Shouting, I'm not gonna
Bonjour, nous sommes avec Jo Van Bouvel à Beria. Merci de nous recevoir.
Avec plaisir, bienvenue.
Première question, êtes-vous prête?
Oui.
Pourquoi avez-vous choisi d'être chanteuse?
Alors, j'ai toujours chanté quand j'étais petite. Pendant l'adolescence, je suis devenue très timide, extrêmement timide, vraiment timide. Et donc, je ne parlais plus et je chantais toute seule dans mon petit coin. Et un jour, quand je faisais mes études, je faisais partie d'un groupe de méditation. Et donc, lors de cette méditation, c'est une méditation respiratoire, on nous posait la question sur une expiration, il faut dire ce que vraiment tu as envie de faire. Et donc j'ai pris une bonne inspiration, j'ai expiré et j'ai dit chanter. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit j'enlève cette timidité et je vais juste chanter.
Depuis quand chantez-vous et pourquoi dans ce domaine?
Alors je chante depuis tout petit, tout le temps. Mais j'ai commencé vraiment à chanter devant un public quand j'avais une vingtaine d'années. Et plus dans la musique folk, traditionnelle, parce que c'était un peu dans la famille. On chantait des chansons traditionnelles autour de la table quand il y a des fêtes de famille.
Du coup, quel style de musique aimez-vous chanter?
Bon. Actuellement, je chante toujours du folk et la musique traditionnelle interprétée, mais aussi le jazz. Ce que j'ai fait après mes études de beaux-arts, j'ai fait des études à l'école de musique de jazz. Donc c'est une école supérieure, une formation jazz. Et j'ai toujours aimé chanter le jazz.
Autre métier, ce serait quoi?
Ah, j'ai réfléchi à ça hier, mais j'ai pas trouvé en fait.
Ah ouais.
Peut-être danseuse.
Danseuse?
Oui.
C'est un très beau métier aussi, hein. C'est vrai que.
Ouais, hein. Ouais.
Bah, très peu de danseuses.
Ouais.
Ballerine, c'est plus courant.
Oui.
C'est à toi.
Pourquoi avez-vous choisi Berrien? Vous avez un studio pour enregistrer?
Alors. Berrien. Pourquoi j'ai choisi Berrien? C'est vrai, c'est une super bonne question parce que c'est pas évident de trouver à Berrien. Voilà. Mais en fait, c'est un rêve depuis très longtemps, c'est de vivre dans la forêt, dans un pays celtique. On va dire peut-être la Bretagne, Irlande, l'Écosse. C'était un rêve d'enfance. Et donc... La Bretagne, c'était pas trop loin et il faisait pas trop mauvais non plus. Donc j'ai choisi de vivre ici dans la forêt. Et donc j'ai trouvé une maison qui était dans mon budget à Berrien. Ça aurait pu être à La Feuillée ou Elguat, mais voilà, c'était à Berrien.
J'ai des clichés sur la musique bretonne. C'est mou et ça ne va pas assez vite. Est-ce que j'ai tort?
Ah ouais, hein.
Parce que ce n'est pas facile d'être
ben
la musique rapide.
Ben c'est un peu, si c'est en 4-4, ça avance, c'est tribal. C'est une musique que quand tu commences à danser et écouter, ben, tu peux arriver à un certain moment en transe parce que c'est très répétitif et on fait avec plusieurs personnes. Et donc du coup, c'est une musique ancienne aussi, c'est tribal, c'est un peu la techno-bio.
Eh bien, je vous remercie pour cette interview sur l'émission, c'est ça?
Ouais.
De cette interview avec Jo Van Bouvel à Berrien. À bientôt.
À bientôt. Plantas una guiado. Ave.
Planta son aguilla.
Et voilà pour cette petite plongée du côté de Scrignac dans le centre Finistère avec Jo Van Bouvel et puis une voix que certains, en tout cas autour de la table, ont reconnue. Mais on ne dira pas qui c'est, hein, n'est-ce pas les gars?
Non.
Non, non, c'est secret, on ne sait pas. Qui était cette voix qui accompagnait Jo Van Bouvel? Alors voilà, c'est la fin de ce périple radiophonique qui nous a menés aux quatre coins du parc naturel régional d'Armorique. Eh bien on va vous laisser le mot de conclusion pour la fin les gars. Alors votre sentiment sur ce voyage, qu'est-ce que vous avez appris, Jonathan?
Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai énormément aimé tourner dans tout le parc d'Armorique, de faire des interviews. J'ai trouvé les interviews aussi très intéressantes parce que ça m'a permis de découvrir la radio, puis ça m'a permis aussi d'apprendre certaines choses sur certains métiers que j'ai bien aimé, voilà. Et j'ai appris, oui, comme je disais, j'ai appris beaucoup de choses durant ce périple.
Et pour Kevin ?
Le voyage dans les endroits différents. Intéressant, instructif, des rencontres peu connues.
Eh ben super. Bon, c'était super positif, quoi, en somme.
Ah oui,
oui.
Ah
oui.
Bon, ben chouette. Eh ben, peut-être qu'on refera de la radio encore l'année prochaine. Qui sait ?
Peut-être.
Peut-être.
On verra bien.
L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.